Pas, je sais pas, non. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, que tu veux.
Non, mais je sais pas, t'en penses quoi?
C'est bizarre.
C'est bizarre. Je sais pas, j'aime bien le bruit et tout, tu sais. Je fais de la radio un peu.
C'est quoi une radio?
Je travaille dans une petite radio dans l'Aveyron.
C'est quoi que tu kiffes?
Là, je sais pas, en vrai, le son, tu vois, c'est pour... en fait, c'est genre, quand t'es en Aveyron, une ambiance comme ça, tu l'as nulle part.
T'aurais pas une clope à me dépanner? J'ai franchement, c'est quoi, j'ai fait ça. Ouais.
Allez, vas-y, ça, je veux bien.
Christian. Tu as une blonde?
Non, ça va, c'est bon.
Tu as une blonde? Ouais, Moldave. Tiens.
Finis là, si tu veux, ou quoi. En fait, c'est des trucs, c'est comme ramener des photos du week-end, c'est pareil en fait. Tu vois, je fais pas mon selfie dans le marché.
Mais où t'en kiffes toi, d'après écouter?
Après, moi je le passe à la radio après. Après, je fais un petit montage, je raconte, voilà, j'étais à Marseille, si ça, Nina, j'ai visité, je suis allé voir un truc, machin, et après je le diffuse à la radio, quoi.
Ouais.
Et du coup, les gens, ils entendent l'ambiance, et en fait, tu te fais...
de la radio à l'ancienne, là.
Ouais. Ah, franchement, c'est des trucs kiffants, quoi. Mais après, une fois de temps en temps, je fais des trucs comme ça, là.
Ouais. C'est quoi, la radio?
Radio Sainte-Afrique.
Sainte-Afrique?
Ouais. C'est le nom de la ville. La ville, c'est Sainte-Afrique.
Où?
Dans l'Aveyron, à côté de Millau, là.
Tu habites à côté de Millau?
Mmh.
D'accord, ok.
Entre Montpellier et Millau.
D'accord, ok.
Bon, prends soin de toi, frère. A plus.
Il est dégoûté. Le souchard. Il reste plus rien là.
C'est ça, donc ça change au cul de l'église.
Je suis religieux, moi.
Au cul de l'église.
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 Françoise.
On y est tous là. À Sainte-Afrique, bien sûr, à la radio de Sainte-Afe, vous venez nombreux, nombreuses. On vous attend.
Au cul de l'église.
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 Du cul de l'église, ouais.
Au cul de l'église.
Au cul de l'église.
Tu veux que je dise quelque chose dans ton micro?
Au cul de l'église.
Au cul de l'église.
Prêt les gars? Ouais.
Allez, au cul de l'église.
On est parti
pour l'émission qui va tuer du Dieu. Le cul de l'église.
Bonjour, en ce début de printemps et après une absence, c'est le retour du cul de l'église.
Longue absence.
Alors, on a autour de la table Cacapo.
C'est ça, bonjour.
T'es venu nous parler de quoi du coup, Capo?
Je vais faire un petit... je vais parler un peu du Rwanda.
Ok, bon mais cool, on verra ça tout à l'heure. Nous avons également Emma du coup.
Bonsoir.
Et de Emma, du coup, tu es venue nous parler de quoi?
Moi, je vais parler des rencarts un peu foireux.
D'accord, sympa. Sinon, nous avons aussi arrivé en dernière minute A2 qui est avec nous.
Bonsoir.
Et A2, tu es venue nous parler de quoi?
De loi anti-pauvre.
De loi anti-pauvre, oui. Tiens, ça sonne, ça paraît commun en ce moment. Bref, dans son aquarium là-bas derrière à la tech, on a Clément aussi.
Bonsoir à toutes et à tous.
Voilà. Et pour finir, bah, moi-même, Yves, et bah, vous verrez bien de quoi je vous parlerai tout à l'heure. Voilà.
Et du coup, on va commencer. C'est quoi? C'est A2, c'est ça?
Oui, pour commencer, on a A2.
Et ben, allons-y.
Je n'y arriverai jamais quand même. J'ai cassé le disque.
No, God, please, no.
Oui, tu as raison, parce que finalement, ça n'est pas très grave, parce que quand même, j'ai encore d'autres biscottes.
Et Manu, et si on faisait un truc genre, tu sais là, les pauvres, ils gueulent et tout là dans la rue parce qu'ils sont pauvres. Mais moi ça commence à me saouler grave. On pourrait pas trouver un truc là pour bien les faire chier là? Non mais vas-y là Arnaud, trouve un truc là, moi je suis occupée. Non, j'ai une idée. Eh bien par exemple là, ceux qui se tiennent pas trop à carreau là, les briseurs, les casseurs, ouais les casse-couilles là, comme tu veux. Bah on pourrait faire un truc pour qu'ils soient encore plus pauvres. Ah ouais... Genre, enfin, tu me dis hein, si je déconne trop, hein, mais une loi bien bâtarde qui ferait que si on les chope, eh ben, on leur pique leur RSA. Oh, c'est du génie! Et non, ce n'est pas le nouveau scénar d'une comédie française sur fond social, mais une réelle proposition de loi. Et je suis très fière de vous en parler ici, au cul de l'église de Radio Sainte-Afrique, car cette idée de génie vient d'Aveyron. Oui, messieurs, dames, oui, d'Aveyron. C'est le député Les Républicains, Arnaud Viala, maire de Vézin de Levezoux, qui a eu cette très belle idée. Une proposition de loi du 20 mars visant à sucrer le RSA des manifestants trop virulents. Parce qu'en gros, tu vas dans la rue ben, parce que t'es pauvre et que ta vie, c'est la galère. Déjà, paf, tu t'en prends plein la gueule, les CRS, les gaz, quoi, c'est un vrai carnaval sur les confettis. Et ben là, en plus de ça, pour être bien sûr que tu fermes bien ta gueule de pauvre, ben, c'est la carotte et le bâton. Alors, on a été vilain et paf, punition, privé de télé, sans dessert. Donc, selon Viala, cela pourrait avoir un effet dissuasif sur certaines personnes plus tempérées dans leurs attitudes, leur évitant ainsi de prendre part au débordement. Bon, Nono, c'est quand même pas trop un salaud. Il a quand même le cœur sur la main et a rajouté une petite note un peu cool à la fin. Donc, toutefois, afin d'accorder cette nouvelle peine complémentaire au principe de nécessité des peines et de proportionnalité des sanctions qui dérivent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il convient que la privation des droits au RSA soit provisoire et non définitive, et qu'elle prenne donc la forme d'une suspension d'une durée d'un an plutôt que d'une suppression définitive.
On va la déposséder et lui arracher des lambeaux de langue!
Et il fait poulotter l'estomac par des rats!
On ne torture point femme sur mes terres! La brûler vive suffira!
Merci, mon bon seigneur! Merci! Tu es trop bon!
Ils ont eu raison de mettre ça sur le débat, ajoute le patron des députés LR, Christian Jacob, qui a soutenu cette proposition de loi. Non, c'est vrai, ils ont eu raison de mettre ça sur le débat, tout le monde en a assez de ces casseurs, a-t-il déclaré sur RTL. Est-ce qu'il est normal que des voyous qui brûlent des magasins, saccagent des voitures, des bâtiments publics, puissent continuer à bénéficier tranquillement de la solidarité de l'État? Je pense que la question mérite d'être posée. Bah oui, et ce serait surtout dommage de se demander pourquoi qui gueulent les pécores. Surtout cette question-là, hein, on va surtout pas se la poser. Bon, on a compris le message, mais comme ça me fait plaisir, on peut en remettre une petite couche. Donc, selon Arnaud Viala, il n'est pas tolérable que des citoyens français bénéficiant de prestations sociales puissent dégrader des biens publics ou privés et s'en prendre aux forces de l'ordre dans l'intention de porter atteinte à leur intégrité physique. Eh oui! Donc, en parlant d'intégrité physique, on en profite d'ailleurs pour saluer Geneviève Leguet. Bonjour, coucou! Et oui, donc Geneviève, militante gilet jaune de 73 ans, hospitalisée à Nice pour avoir été blessée lors d'une charge policière. On le rappelle pour la petite histoire que suite à cette hospitalisation, le procureur de Nice a d'abord affirmé qu'il n'y avait pas eu de contact entre la dame et la police. Donc, selon la version du procureur, Geneviève Leguet aurait heurté un plot, ce qui expliquerait ses blessures. Eh oui, mon bon seigneur, qui sait qui a mis un plot là, en pleine manif? Non mais où va le monde? Donc, autre twist, la policière chargée de l'enquête n'était autre que la compagne du policier mis en cause.
Ouais, c'est magique ça.
Donc, Geneviève Leguet a aussi déclaré qu'une autre policière avait essayé de lui faire dire qu'il s'agissait d'un caméraman à côté qui l'avait poussé. Voilà. Donc, le procureur a ensuite changé sa version pour dire que c'est bien le geste d'un policier qui est à l'origine de la chute de Madame Leguet. Bref. Niveau intégrité, ça se pose là, on est bien. On peut désormais boire une grande gorgée d'ironie, parfum, sans blague, on s'en doutait pas du tout. Allez, à la vôtre et salut!
Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor.
No
C'était une musique au
son de ton téléphone, c'est ça.
À la base, c'est bien. C'est Eva Simons avec Hey Mr. Policeman. Et je sais pas pourquoi ça a merdé. J'suis
bon, bah voilà, on s'excuse. Hein, voilà.
Bisous.
Il y avait pas de basse.
Ouais, c'est ballot. Hein.
Voilà, donc on fait un gros big up à Arnaud hein, s'il nous écoute depuis Cémon là.
Oui, à Vézin de Lévezou. Gros voilà. Bisous, Nono.
Ouais.
Gros bisous.
On t'attend à la manif.
Voilà, à la prochaine manif. Et mais pour suivre, il y a Mister Cacapo qui va nous raconter plein de trucs.
Cacapo, ah, oui. Ça use, ça use. Un cacapo, ça use, tes yeux. Un cacapo, ça a perdu l'envol.
J'avais oublié ce...
Comment l'oublier ?
Enfin bon. Bon, un document longtemps classé secret défense contredit la thèse d'une large partie des autorités politiques et judiciaires françaises sur l'attentat du 6 avril 1994 contre le président rwandais Juvénal Ibaiyarimana. C'est dur à dire. Le 7 avril 1994, le génocide commençait à se déchaîner à partir de la capitale rwandaise. 1 million de martyrs en une centaine de jours. 25 ans plus tard, de nombreuses questions demeurent sans réponse. En particulier, celles concernant le rôle joué par la France, non seulement lors du génocide lui-même, mais auparavant, durant toute la période de la guerre civile, de octobre 1990 à août 1994. Dans cette matinée du 7 avril, les meurtres ciblés se multiplient. Assassinat par la garde, par la garde présidentielle et des deux candidats d'opposition à la présidence de l'Assemblée de transition, du président de la Cour constitutionnelle, de la première ministre Hutu du gouvernement de transition, les 10 casques bleus belges affectés à sa protection, livrés au lynchage. Des crimes politiques aussitôt noyés dans une folie de sang ethnique. Celle qui, en 3 mois, fera 1 million de morts dans la population, portant sur le cadre d'identité la mention Tutsi. La veille en soirée, l'avion du président rwandais avait été abattu par deux missiles à son arrivée sur Kigali, fournissant le signal des tueries. Milices racistes et gardes présidentielles se tenaient visiblement prêtes depuis de longues semaines. Des tractations pour la formation d'un gouvernement intérimaire commencent simultanément, qui se déroule dans les locaux de l'ambassade de France au Rwanda. Et oui, un souvenir que Paris déteste encore aujourd'hui se faire rappeler. Quatre présidents après Mitterrand, Paris juge toujours aussi choquante toute curiosité concernant son rôle historique au Rwanda. Un motif toujours le même et avancé pour refuser d'y répondre. Le secret défense. En quoi celle-ci peut être opposé à une question concernant, par exemple, l'opération turquoise, théoriquement une opération humanitaire déclenchée en juin 1994. C'est comme ça et défense d'insister, s'il vous plaît. De même pour ceux qui concernent d'autres documents, tels ceux relatifs à l'attentat contre le Falcon présidentiel. Comme la loi du silence risque à terme Comme la loi du silence risque à terme d'avoir des effets inverses à ceux désirés, il faut, bien de temps à autre, faire semblant d'accomplir un geste en levant le secret défense sur une pincée de documents soigneusement sélectionnés. La déclassification demeure plus que partielle, mais permet un effet de posture sans véritablement permettre de faire la lumière sur le fond des problèmes. Pour limiter qu'elle soit, elle peut néanmoins avoir des effets cruels. Un exemple, le courrier adressé le 15 juin 1998 par le général Jean Ranou, chef d'état-major de l'armée de l'air, au général Mourjon, chef de la cellule Rwanda, au cabinet du ministre de la Défense. Déclassifié par décision numéro blablabla du 9 octobre 2015 du ministre de la Défense. Une fiche datée du 22 septembre 1994, soit environ 2 mois après la fin du génocide. Figure dans ce courrier et a pour titre « Hypothèse du génocide, hypothèse du service sur les responsabilités de l'attentat contre l'avion du président rwandais ». Le 12 juillet 1994, le service avait déjà émis une hypothèse qui, 2 mois plus tard, lui semble toujours la plus plausible. Hypothèse appuyée sur les témoignages d'une personnalité Hutu modérée tendrait à désigner les colonels Bagosora, ancien directeur de cabinet de ministre de la Défense, et Zerubuga, ancien chef d'état-major des forces armées rwandaises. Comme les principaux commanditaires de l'attentat du 6 avril 1994, quelques lignes plus loin, il était souligné que tous deux natifs de Karago, de même que le défunt président rwandais, ils se sont longtemps considérés comme les héritiers légitimes du régime. Et que leur mise à la retraite en 1992 par le président rwandais a été à l'origine d'un lourd ressentiment et d'un rapprochement remarqué auprès de Madame Ubyarimana, du coup la veuve du président, est considérée souvent comme l'un des principaux cerveaux de la tendance radicale de l'ancien régime. Plus bas, cette définition du réseau zéro, regroupant des membres de clans de cette dernière, constitués de radicaux Hutus, originaires du Nord, civils et militaires, il est soupçonné d'être au centre du complot qui a abouti à l'attentat du 6 avril 1994, et d'être responsable de la planification systématique des exactions. L'existence de tels documents gardés sous le coude n'empêchera pas, dans les années suivantes, des magistrats comme le juge Bruguière ou politiciens type l'ex-ministre Bernard Debré de présenter comme évidente la culpabilité du dirigeant Front patriotique rwandais Paul Kagame, maintenant président du Rwanda, ce que d'aucuns contiennent de récupérer comme vérité d'évangile.
Thank you. L'Afrique, je l'ai en moi, et je chante pour sa mémoire, je suis humain. Ni métis, ni blanc, ni noir, le Rwanda, je le pleure chaque 7 avril, même si Hubert Védrine n'est pas de notre avis. Au fait, vous savez, je suis franco-rwandais, et une partie de moi-même a tué l'autre sans me le demander. Le Rwanda et la France m'ont tout donné et m'ont tout pris. Je veux être en paix avec moi-même et cela à tout prix. Je slame des mots, moi. J'ai pas que des mots, j'ai mes souvenirs, couleurs de quand j'étais môme, de quand j'étais les pieds nus dans la latérite. Afrique à la dérive, je suis sentinelle sous la guérite. La pluie sur le goudron chaud, senteur que l'on humecte. J'ai dû quitter ce monde beau qui m'avait vu naître. J'ai débarqué un soir d'hiver à aéroport Charles de Gaulle, victime des dommages collatéraux du discours de la boule. Comme des métaux, c'est mon fond, ma forme, flow, métaphore que je manie, comme le feu la forge, ils ont partagé l'Afrique, à l'équerre, à l'écart, à mon quart ou dans mon tiers de monde, devenu ma terre, j'ai trop pleuré quand mon peuple a perdu la raison, ce sont nos larmes qui ont rempli tous les grands lacs de la région, un hommage à la paix, pour ce mort au combat, soldat inconnu, hasta siempre, Fred Ruigema, écoutez. Nous ne sommes pas du même monde, vous avez grandi en paix. Nous revenons d'outre-tombe, il fut long, très long. Le chemin du retour, les paroles ne servent à rien lorsqu'on épuise tous les recours. Reprendre ce que la vie n'offrait pas, sous des tentes du HCR et des couloirs de l'OFPRA. Nos familles, réfugiées, décimées, déracinées, dans des pays frontaliers, elles furent marginalisées. J'en ai rêvé, du pays de Guianga, des murmures de l'Inanga et des poèmes de Lugamba, d'écouter la rumeur sur les collines le matin, dans les reflets jacaranda de nos aurores de satin. J'en ai rêvé du pays du lait, du miel, des boissons fermentées et de la pierre d'hydromel. Nyabarongo, à tout jamais, tu es l'encre de ma plume et les cornes de la vache sacrée sont mon croissant de lune.
Soldats perdus de ces 100 grades, que le raffut des combats a rendu sourd à eux-mêmes. Ces 20 automnes déjà meurtris, à l'heure d'aimer, tout lui répugne. Sa naïveté obscène, sa tardive amertume. C'est l'arrière-goût d'une sale victoire, il le sait trop. Alors tant pis, il fredonne comme il peut, fredonne l'air des insoumis. Le chant sinistre des renégats, la complainte des parjures, des déserteurs, du champ d'honneur.
La renoncer à la gloire des sales besognes. Rien les cœurs plus que l'odeur entêtante de la suie et du sang qui le suit ou qu'il aille, qu'il enivrait tant. Il trimballe son dégoût, la frénésie du massacre. Il le sait bien, c'est un peu tard. Il s'approche comme il peut, s'approche de la ligne de démarcation qui sépare conquérant et conquis. Frontière tracée à la règle entre combattant et civil. Entre ce qu'il fut et ce qu'il est, il a bien tenté de le soigner à l'autre vie. Son corps chétif rendu robuste par l'humiliation, le mépris. Dans les vapeurs de l'alcool, il a cherché une mort digne. Il n'a pas su, il avait sa honte. C'est impossible. Comme il peut, il cherche le lieu où tout bascule, où quelque chose s'est éteint, où la douleur a laissé place à la fureur pour toujours. Maudite colline qui reconnaîtrait d'entre toutes, puis c'est zéro, elle le poursuit dans son sommeil et dans sa veille, quand il est à compter les heures, attendre l'aube pour marcher encore et encore en sentinelle de l'absurde. Mais à rien seul, il gueule. Comme il peut, il gueule, lâche ce cri étouffé. Vomit les razzias, les aveux sous la torture. Il pleure la folie, assassine le prestige tortionnaire des siens qui sont venus dompter l'Afrique. Il connaît bien l'issue de sa course, sa mutinerie arrive à terme. Mais d'ici là, les scènes fixées sur sa rétine ne lui laisseront pas un répit, pas de repos. Et c'est tant mieux, il arrive. C'est qu'enfin il arrive là où l'histoire s'achève. En fusillade, au coup de machette, là d'où vient sa gamberge, gangrène des champs de bataille. Où il croisa enfin l'ennemi, gamin au veillard, tout si dernier rescapé des tueries à leur trousse. Les militaires et miliciens, formés, encadrés sous la bannière bleu, blanc, rouge, jusqu'à la solution finale. Ouais, jusqu'au bout, Rwanda. Puis c'est zéro, fin du périple. Le paysage est magnifique, il ne voit plus qu'anéanti. Terre d'ombre, terre de soupir d'un peuple damné qui fut traqué jusqu'au dernier. Rwanda, puis c'est zéro, fin du périple. Il sait trop bien son sacrifice vain et tardif. Mais la déchirure est profonde, juste en finir, juste en finir. Rwanda, puis c'est zéro, fin du périple. Le paysage est magnifique, il ne voit plus qu'anéanti. Terre d'ombre, terre de soupir d'un peuple damné qui fut traqué jusqu'au dernier. Rwanda, puis c'est zéro, fin du périple. Il sait trop bien son sacrifice vain et tardif. Mais la déchirure est profonde, juste en finir, juste en finir. Rwanda, puis c'est zéro, fin du périple. Le paysage est magnifique, il ne voit plus qu'anéanti. Terre d'ombre, terre de soupir d'un peuple damné qui fut traqué jusqu'au dernier. Rwanda, puis c'est zéro, fin du périple. Il sait trop bien son sacrifice vain et tardif. Mais la déchirure est profonde, juste en finir, juste en finir.
Et du coup, ben, on a eu deux sons, donc il y en a un, c'était Capo, le premier.
Ouais, du coup, moi, c'était Milk Coffee and Sugar avec la chanson OP Anthem.
Yeah, et après, c'était Serna avec le titre Bicessero de son premier album.
Et ben voilà, ben, merci les gars, en tout cas, c'est cool.
Ouais. Ça parlait Rwanda, bon, c'était un peu...
Ouais, mais du coup, j'ai hésité entre les deux, mais j'ai pris Milk Coffee and Sugar.
Ouais, mais...
Ah, on a eu les deux.
C'est Gaël Faye, c'est mon petit préféré pour sa petite plume qu'il a...
Bah c'est bien en tout cas, parce que Rwanda, on n'entend pas beaucoup parler, comme vous êtes tout à l'heure en antenne. Donc
non, mais c'est franchement le truc, le Rwanda, c'est vraiment un truc hyper badant au niveau étatique. Quoi, ce dont est capable l'État français de cacher encore, de garder vraiment des documents secrets qui... qui prouve un massacre, un génocide ordonné par l'État français.
Néocolonialisme.
C'est un truc de ouf quand même. Ça arrive pas non plus toutes les décennies dans tous les pays, quoi.
La France, après, c'est clairement ceux qui sont partis sur le néocolonialisme et qui tiennent le plus la main là-dessus et qui lâchent pas l'affaire de toute façon. Tu regardes l'histoire des Kanaks, ils ont toujours pas lâché l'affaire.
Et ils lâcheront pas.
Et ils lâcheront pas l'affaire.
C'est clair.
Faut attendre 50 ans, un truc comme ça. C'est comme l'Algérie, là, quand tous les tortionnaires ils sont morts, hop, on déclassifie tous les documents et hop, c'est magique. Papon, en fait.
Il y a que le Vatican qui est pire, qui a sorti il y a quelques années les dossiers de la guerre de 100 ans. Enfin, eux, ils attendent carrément quelques siècles. Mais à part ça, après, c'est l'État français. Faut que les gens soient morts. Bref. Yeah. Pour la suite, du coup, je crois que c'est Emma qui.
Tu veux que je dise quelque chose dans ton micro ? Bonsoir, désolé par avance pour la voix un peu cassée, je suis malade comme
bonsoir.
Souvent. C'est ça. Alors moi, sujet un peu plus léger quand même, parce que faut bien se marrer des fois. J'avais envie de parler de Rancard, mais comme on est quand même au cul de l'église, on va pas évoquer les plus romantiques. Les sites de rencontres, quel meilleur moyen au XXIe siècle afin de ratisser large ? Alors déjà, premier constat, quelque peu navrant, je dois avoir l'air complètement conne, parce que j'attire tout un tas de vainqueurs, mais vraiment, à tel point que je commence à me remettre en question. Enfin bref, malgré un tri sélectif, et oui, on fait attention à la planète ici, il y a toujours des ratés. J'avoue que pour celui-là, j'avais peut-être pas pris assez de précautions. En général, j'aime bien faire un test voix avant la rencontre, parce que la manière de parler, c'est important quand même, c'est pas les copains de la radio qui vous diront le contraire. Mais là, j'ai pas fait, et la première fois que j'ai entendu sa voix, c'était pour me dire qu'il arrivait, et là déjà, j'ai senti que c'était peut-être pas la meilleure idée que j'avais eue. Mais on se démonte pas, on l'accueille. Premier contact difficile, mon corps entier avait juste envie de rester très très loin de lui. Il était même pas moche, mais je sais pas, le fait qu'il sentait comme une frite froide géante n'a peut-être pas aidé. Et une frite froide qui aurait essayé de mettre un parfum qui pue pour essayer de sauver les apparences en plus. On se démonte toujours pas, allez, il est peut-être sympa, tu peux quand même passer une bonne soirée. Mais malheureusement, de ce côté-là non plus, ce ne fut pas facile. Était-ce ces changements brutaux de conversation, parfois même en plein milieu d'une phrase, ou était-ce le choix de ces changements de conversation justement plus improbables les uns que les autres? Je ne saurais pas dire. Mais heureusement, il a fini par me faire l'éloge de ses somptueuses chaussettes en fibre de bambou qui avaient l'air de le remplir de fierté. Je comprends, d'un côté, elles étaient d'un violet que seuls les dauphins peuvent entendre, je crois. Et avec des charmantes petites arêtes de poisson rose fluo, sûrement pour mettre en valeur ce violet si rare. En plus, si le but était de me démontrer la performance de la fibre de bambou, vu les trous qui lui aéraient les orteils, à moins qu'il les porte tous les jours depuis 3 ans, elles sont pas beaucoup plus solides qu'une bonne paire en coton. Donc vous vous doutez bien que face à tant de tentations, mon langage corporel était clair. Jambes et bras croisés, gilet fermé jusqu'en haut et moi enfoncé dans l'accoudoir de mon canapé. Je ne pouvais pas être plus clair. Et pourtant, je le voyais se rapprocher, jusqu'au moment où, me sentant un peu oppressé, je me redresse. C'est là qu'il a eu la judicieuse idée de me mordre au niveau des côtes. Oui. Alors autant vous dire que mon coude est parti en réflexatif dans sa tête. J'ai dû verbaliser clairement le fait que malheureusement il ne me plaisait pas. Bref, je vais vous épargner les détails du moment gênant où il s'est auto-psychanalysé, parce que quand même c'est dommage, parce que lui il passait une bonne soirée. Et je vais plutôt vous parler du deuxième cas que j'ai eu.
Oula.
Alors lui, ce fut une surprise. J'avoue que pour le coup, au moins j'aurais ri. Nous avions rendez-vous un jeudi soir à 19h30. Je devais le rejoindre directement en sortant du taf avant qu'il aille à sa séance d'escalade. Jusque là, tout va bien. Le mec m'avait cité Bouddha, il fait de la méditation. Je me dis, au pire, Emma, tu vas te faire un peu chier. Jeudi soir, donc, 19h30, j'arrive au point de rendez-vous. Au début, je le vois pas. Et en fait, si. Il était allongé, prostré sur un banc. Alors, je m'approche. Là, il semble comprendre que c'est moi et avec qui il a rendez-vous. Bref, on se fait la bise et là, comme une odeur d'alcool. Mais genre bien, quand même. Pas genre une haleine de fond de bière, un truc plus profond, tu vois. Je lui propose quand même de monter parce qu'il a ramené de la bière et que j'ai envie de fumer. Et je me dis, au pire, c'est pour une heure. Heureusement. Rien que la montée des escaliers fut laborieuse. Je voyais le mec tituber devant moi. Je me suis dit, déjà, je pense que tu peux oublier les conversations sur Bouddha. Effectivement, on n'a pas parlé de Bouddha. On n'a pas parlé de grand-chose, en fait. Il a passé 50 minutes à me poser les 5 mêmes questions en boucle, sans jamais se souvenir de la réponse que je lui donnais, apparemment, puisque la surprise était là à chacune de mes réponses. J'avoue qu'au bout de la 4e fois que j'ai eu le droit à... Et sinon, t'écoutes du rap ? Et tu connais SwiftGad ? J'ai éclaté de rire. Je pouvais plus faire comme si on n'était pas coincé dans une faille spatio-temporelle. Fallait que j'essaye de faire quelque chose. Mais du coup, il est revenu à la question 1 et 2, qui était « Depuis combien de temps j'étais à Saint-Taf et pourquoi j'étais venu ici ?» Alors on le sait tous ici, j'aime bien raconter ma vie. Mais il y a des limites quand même. Et c'est quand même triste de pas faire la différence entre personne qui rit avec vous et qui rit de vous. Parce qu'il était long, il était content lui que je me marre. Il a même failli oublier d'aller à l'escalade. Alors oui, on est bien d'accord, déjà arriver à un rendez-vous avec 3 grammes dans le sang c'est osé. Mais en plus avant d'aller à l'escalade, ça en devient artistique. Mais moi, j'avais pas oublié qu'il fallait qu'il aille à l'escalade. Il fallait que ça cesse. J'ai enfin pu rejoindre les copains à la radio, qui comme tous les jeudis se faisaient un petit cul. Et on s'est tous bien marrés grâce à toi mec, alors merci quand même. Et merci les copains de vous souvenir de ce que je vous dis, même quand on est sous.
We are proud individuals living for the city, but the flame couldn't go much higher. We find and religions to paint us with salvation, but no one, no nobody can give you the power to rise. A dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon-fed to the blind, serves now to defy a cold society from which we'll rise.
Yeah!
Waouh, c'est une musique de crooner pour des trucs de rancard.
Ouais, non, mais en fait, pas du tout. C'est une musique...
C'était quoi?
Ben, c'est un live de Paolo Nutini de la chanson Iron Sky. Et c'est en vrai, enfin, ça paraît comme ça un peu romantique, mais pas du tout. Le texte parle de la déchéance humaine et de,
okay,
ouais, de la décadence de l'humain.
Et en parlant, ouais, de live, on avait un concert à annoncer, c'est ce week-end à Rouzette.
Oui.
Alors j'ai l'affiche devant moi, je vais vous la lire. Samedi 13 avril à Rouzette. Alors Rouzette, c'est entre Camarès et Belmont, c'est sur la route quand on est à Camarès et qu'on va à Belmont ou quand on est à... Ok, c'est à partir de 19h. Il y a plusieurs groupes. Il y a All Border Kills, du trash punk de Montpellier. Il y a Crotal, de l'old school hardcore dirty beat de Hoche. Il y a Black Mountain Bastard, du punk hardcore de Mazamet. Et il y a le 12 Crew en première partie, du rap de Saint-Taf et de Camarès. Il y a du pâté Fabio, du lancer de couteau acrobatie d'ici. Et des trucs comme ça un peu bizarres.
Ça va être une soirée de folie, quoi.
Voilà, ça va être une soirée de folie. Et du coup, on s'écoute un extrait d'un des groupes. Oh, c'est du punk, mais c'est court.
C'est du punk.
Ouais, non, c'était BMB avec Crisis, voilà. Et ce sera samedi 13 à Rouzette.
Et ça m'étonne pas de celui qui organise la soirée qu'il y ait du groupe punk comme ça.
C'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. C'est, mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Vas-y, gollerie, t'as mis quoi, tu... Moi j'en ai plein de cul super sur putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans des trois rats comme des merdes et quoi. Qu'est-ce que tu fais quelque chose, toi, pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul, toi, non plus.
I woke up in a girl.
Mais quoi, Elmer, les stampés en mer, tu les
sauves. I was a prisoner.
C'est fini, on t'en plus l'autre jour.
J'ai 26 ans, j'ai passé presque 2 ans à Fleury-Mérogis jusqu'à juin dernier. J'ai connu Kevin il y a 7 ou 8 mois quand je suis arrivé au bâtiment D3. On est tous les deux martiniquais, on s'est tout de suite très bien entendus. On était ensemble en cellule, 22 heures sur 24. Être ensemble tout le temps, ça crée des liens, c'était comme si on se connaissait depuis des années. Il avait aucun problème de santé, c'était un bon vivant. Ce samedi-là, on se préparait pour la promenade qui débute à 15 heures. C'est là qu'il a commencé à se sentir mal. Il se plaignait d'un mal de tête survenu subitement. À 15h, 15h20 maximum, j'ai appelé les surveillants à l'interphone pour qu'ils préviennent les médecins. Puis Kevin s'est mis à vomir. Vraiment en abondance, c'était hallucinant. Les surveillants sont venus le voir, ils l'ont emmené voir le médecin vers 18h30. Ils ont dû le mettre sur une chaise roulante, il tenait pas debout, il était complètement dans les vapes. Quand ils l'ont ramené une heure après, c'était l'équipe de surveillants de nuit et le chef m'a dit que c'était sa nuit de garde et qu'il voulait pas de problème. Kevin était toujours en chaise roulante. Il était dans le même état, voire pire. Ils ont soulevé les deux roues arrière pour que je puisse le récupérer à bout de bras tout seul. Il y avait plein de vomi partout dans la cellule. En le portant, je glissais dans le vomi. Il n'y avait plus de matelas sur son lit car je l'avais mis par terre pour qu'il puisse s'allonger proprement. On l'a posé sur un sommier métallique en attendant qu'ils aillent chercher un matelas que j'avais déjà réclamé tout l'après-midi. Ensuite, ils nous ont enfermés. Ils passaient toutes les heures et à chaque fois, je leur signalais que ça se passait mal, que ça empirait. Deux fois seulement dans la nuit, Kevin a repris conscience, mais c'était juste pour aller vomir, puis il revenait s'allonger sur le lit. Il avait chaud, puis froid, puis chaud à nouveau. Le peu qu'il parlait, c'était pour dire « Ne me laisse pas mourir, je t'en supplie, ne me laisse pas mourir ». Toutes les heures, quand les surveillants passaient, je les interpellais de plus en plus bruyamment à travers la porte. Je les ai insultés, mais ça a changé rien du tout. Ça a duré comme ça toute la nuit, jusqu'à 6h30, où Kevin a commencé à respirer vraiment fort. Là, j'ai sonné à l'interphone en disant que c'était plus possible de nous laisser comme ça, qu'il fallait venir tout de suite. Le surveillant m'a répondu qu'il fallait attendre l'appel de 7h avec la relève, et il a raccroché. J'ai mis Kevin en PLS, mais j'ai dû le lâcher pour aller ressonner à l'interphone, puis revenir le tenir. Et pendant que je le tenais, je criais qu'il fallait venir. Je crois qu'ils ont compris à ma voix que c'était bizarre, mais le temps qu'ils raccrochent et qu'ils viennent, Kevin est parti, pendant que je le tenais dans mes bras. Ils ont ouvert la cellule, ils sont entrés et constaté qu'il était décédé. Ils m'ont poussé pour me sortir de la cellule assez violemment, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je l'ai mal pris, j'étais très énervé qu'il nous ait laissé toute la nuit comme ça, alors j'ai retenu le surveillant qui voulait me pousser. Puis je me suis calmé pour qu'il puisse l'aider, et je suis sorti de la cellule en claquette, pantalon, torse nu, plein de vomi. Ils m'ont ramené directement en salle d'attente et ils ont mis un drap dans la coursive pour masquer la cellule. Et là, j'ai vraiment compris à ce moment-là. Je les ai vus arriver en courant avec le défibrillateur. Pendant 3 ou 4 heures, ils m'ont laissé comme ça dans la salle d'attente. Je n'ai même pas pu prendre une douche. Puis ils sont venus me dire que Kevin était décédé. Ils ont envoyé pour ça un chef qui s'entendait bien avec moi. La salle d'attente était grande ouverte. J'ai vu les surveillants de nuit qui passaient la tête pour voir ma réaction. Ça aussi, je l'ai mal pris. Et en partant, j'en ai vu un qui rigolait même. Moi, un jeune qui décède dans ces conditions, ça me fait pas rire en fait. On m'a mis dans une cellule vide aux arrivants pendant plusieurs heures encore. J'avais pu prendre aucune affaire, j'ai rien eu à manger. Après, j'ai été auditionné par les gendarmes, j'ai demandé à aller en promenade avec tout le monde, mais ils n'ont pas voulu. Ils avaient appelé les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, les CRS de la pénitentiaire, qui se tenaient prêts devant la promenade. Ils savaient qu'ils avaient fait une erreur et ils savaient que ça pouvait péter à tout instant. Dans la journée, j'ai vu la directrice, puis une commandante qui était d'astreinte et quelques lieutenants qui passaient pour voir comment j'allais. Ils m'ont emmené à l'hôpital dans la soirée parce qu'ils avaient peur que ce soit quelque chose de contagieux. J'avais beaucoup de tension et de température. Le médecin a regardé dans mon oreille et après on m'a plus rien dit. Au total, j'ai attendu 5 heures pour 2 doliprane. Puis le psychiatre est venu, il m'a parlé 2 minutes, m'a demandé si ça allait. J'ai dit que ça allait pas. Il a décroché son téléphone et a parlé 10 minutes avec quelqu'un, mais ça avait rien à voir avec moi. Il m'a proposé un traitement, a insisté, mais j'ai refusé. Je voulais pas de cachet en fait. Et ensuite, ils m'ont encore fait attendre 2 ou 3 heures, alors là j'ai râlé. Le surveillant m'a un peu insulté, genre me disant que c'était pas son problème. J'étais resté calme toute la journée, mais là c'est parti, je l'ai insulté. D'autres surveillants ont du coup ouvert la porte pour intervenir, mais j'ai fait comprendre que j'en viendrais pas aux mains, que la tension était retombée. Le soir, ils m'ont ramené en détention, toujours aux arrivants. Ils voulaient pas que je reste seul, alors ils ont amené une personne avec qui je souhaitais être. On est resté comme ça toute la journée du lendemain, sans que personne ne vienne rien nous dire. On avait les promenades des isolés, c'est-à-dire on était tout seul en promenade. Le soir, j'ai poussé une gueulante, on en avait marre, on a rien du tout aux arrivants. Et donc du coup, ils nous ont remontés, on s'est retrouvés à 3 dans une cellule. Après, tout le reste de ma détention, il n'y a plus rien eu, à part le commandant qui passait de temps en temps pour voir comment je me sentais. Heureusement, j'ai pu voir plusieurs fois des gens, notamment des médecins et des infirmières du service médico-psychiatrique régional, c'est la cellule psychiatrique en détention. Donc du coup, j'ai pu rencontrer des gens avec qui j'ai pu parler. Pendant un mois, je ne suis pas descendu en promenade parce que je n'étais pas bien. Et ça a duré comme ça jusqu'à ma sortie sèche.
Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée. Feu d'artifice et l'armistice, le pays est en fête. Pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, passe, ton nom est sur le tas. J'ai fait 6 pas dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal.
Pimpon.
Les flics éclatent, roulent à fond, bon mon avocat est clair. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49-203, j'entre en cellule, des 128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin, 49-204, me parle de date, me mate, enchaîne, soleil, business et rate. Le trouble est dans ma tête,
et le maton
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés, les jours se répètent.
Et le maton
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête.
Et le maton
première nuit, matelas pourri, lit superposé. Carreaux cassés, les rapaces sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale, goal, mes dents me font mal. J'ai des boutons dans le dos, passif et les 100 pas parmi les prisonniers. 3 mètres de mur, de grillage et un barbelé. 8 douches dans le mois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe. J'étouffe dans ce goulag, la cellule, le stalag. Les jours se répètent.
et le maton.
Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent
et le maton te
guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête
et le maton
te guette. Il d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlant dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de poker contre Satan. Dans cette merde en chien, traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule incamée, prends un cachet à chaque gamelle nouvelle. Un suicidé évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin pactage, libérant pour 49-203.
Ah, pas si t'es sorti.
Ça faisait des mois, j'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai rouvert et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeu et négro. Et le B de bleu sonne avec le B de barreau. Je dois signer, dire présent une fois par semaine, que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas, pas moi, moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire, bonne chance si tu passes devant la barre. Judas fut le mauvais œil pour l'homme de Nazareth. Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent
et le maton te
guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête
et le maton te
guette. J'ai pas ta voix, encore moins la vision. Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion. Mon corps est détenu, mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon dans une brève évasion.
Et le maton te
guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison, à tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs. Tout le temps, tant de hargne, tout le temps, tant de larmes. Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés. Bois d'Arcy, Onifrène, Fleury, Santé, Nanterre, les Baumettes et les autres zonzons. Parloir, courrier, tourné, c'est la merde, tu le sais. Dans tous les quartiers, quand le maton te guette.
Oui. Quand le maton te guette.
Yeah. C'était, bah, vous avez reconnu certainement, c'est vieux, c'était Passy avec
ouais,
le maton me guette.
C'est 95, 96,
ouais,
je pense.
Un truc comme ça.
Par là, ouais.
Ouais, c'est hyper vieux.
Ça faisait longtemps que j'ai pas entendu ça.
Et du coup,
c'était quoi le truc que
bah,
tu...
c'est le témoignage d'un gars donc, qui a été nommé Kylian, mais bon, en fait, les prénoms ont été changés. Et en fait, c'est une personne qui est décédée donc du coup à Fleury. C'était l'année dernière, en fait, en avril dernier, ça fait un an.
Ouais, c'est pas vieux.
C'est pour ça, voilà. Et du coup, lui, il est sorti depuis et en juin 2018. Du coup, il a sorti, il a écrit ce petit texte là pour témoigner de ce qu'il avait vécu et tout ça, quoi. Ouais, et voilà. Du coup, voilà, je voulais le lire. Et d'ailleurs, je voulais préciser aussi que quand on meurt en prison, que ce soit par suicide ou par un autre moyen. Et ben sur le dossier de la pénitentiaire, c'est marqué c'est soustrait à sa peine pour cause de décès, quoi. Donc en fait, tu t'es quand même soustrait à ta peine de la même manière que quand tu t'évades, tu te soustrais à ta peine, en fait.
Ouais,
du coup,
c'est,
ouais, c'est voilà.
On
pour
ne
rajouter...
pas les PD à l'antenne.
Des PD Non, il n'y a personne qui a dit ça.
Moi, je voulais savoir dans où est-ce qu'il avait été publié. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Mais...
Ouais. Alors, je ne sais pas. En fait, je ne sais plus. Je ne sais pas où ça a été publié. Ça a été publié dans plusieurs trucs, des médias autonomes surtout, quoi. Et après l'envolée, je crois, sûrement. C'est aussi... l'envolée, ouais, c'est un travail qui est assez chouette. C'est un journal qui regroupe des paroles de détenus et qui en font un petit journal trimestriel. C'est parisien. Et
ok.
Voilà.
Bah cool.
En tout cas,
bah cool. Non, c'est pas énorme, mais c'est bien d'avoir l'info, quoi.
Ouais. Et bien, on continue avec ton papier.
Avec moi-même, voilà.
Ouais, je cherche le problème.
On n'a pas besoin de chercher les problèmes. On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein.
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Alors, salut, ben moi je suis venu ce soir vous parler un peu d'actualité avec Omar el-Bashir, l'ancien président dictateur du Soudan depuis 1989, qui est enfin tombé grâce à la pression de la rue.
Il a démissionné aujourd'hui, c'est ça, non? Ah, pardon. Ah, merde.
Et bon, donc, mais tant pis. Du coup, c'est dans la suite de mon papier, mais c'était... Voilà, c'était suite à la pression de la rue, donc on leur coupe la tête, voilà. A-t-il démissionné ou s'est-il fait destituer par l'armée? Tout ça n'est pas encore clair, justement, mais oui, c'était ce matin, je crois, enfin par là. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour tous les Soudanais, je pense. J'en profite pour lancer un gros big up à tous les amis réfugiés soudanais que j'ai pu croiser à la frontière. Voilà. Le problème, c'est la suite, car l'armée a annoncé la suspension de la constitution et des élections après une période de transition de 2 ans quand même. Voilà, durant laquelle c'est un conseil militaire qui va administrer le pays. Frontières et espaces aériens fermés jusqu'à nouvel ordre depuis aujourd'hui. Mise en place d'un couvre-feu à partir de ce soir donc. Tout ça ne semble pas très bon, surtout quand on sait que l'ancien président donc, était militaire de formation et s'était autoproclamé président de la République en 1993 après avoir renversé le pouvoir en place en 1989. Il avait été réélu en 96, en 2010 et en 2015. Enfin, réélu entre très grands guillemets, quoi, de force. Voilà. Donc, je suis pas sûr que la situation s'arrange de suite pour le peuple soudanais, vu que c'est l'armée là qui reprend le pouvoir. Espérons au moins que Omar el-Bashir sera remis à la justice internationale et jugé, car il est visé quand même par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, c'est à l'Ouest-Soudan, où il y a une guerre civile en fait depuis 2003, conflit qui, selon l'ONU, a fait 300 000 morts. Voilà, et moi perso, apparemment, d'après des discussions que j'ai pu avoir avec des réfugiés soudanais, c'est pas que au Darfour qu'il y a des morts causées par le régime pour des causes politiques ou autres.
Ce monde me rend contestataire. Pourtant je rêve de paix et de bonheur, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, et d'ailleurs je peux pas me taire. Désolé, je veux réveiller les frères et sœurs, monde de fou, je veux pas attendre de voir ce que l'enfer réserve. Je suis peut-être idéaliste, certains me le reprocheront, mais on a besoin d'idéaux pour bousculer les choses, alors laisse-moi crier même à blanc, le mal d'une époque. Même tu retrouveras dans les yeux de mes sisters et de mes potes, parce qu'on est conscient que ça tourne pas rond et qu'il n'y a pas de solution. Tu m'aimes pas encore, alors ça se bat sur des résolutions. On change le monde qu'à son échelle, es-tu prêt pour la révolution? Car faut voir à quelle prise on se parlait d'évolution. D'évolution, le sud qui crève pour que le nord bouffe, paraît que c'est mort, mais de voir toujours les mêmes qui morphent tous confiants face au progrès technique. Et quand tout sera informatisé, on se plaindra de cette bien finiquée parce qu'ils nous la mettent. Et ça, qu'on l'admette ou non, parce qu'on veut pas admettre, ils génèrent que misère et tourment. Parce que 3/4 des peuples n'attendent que le grand tournant. Jeunesse de l'Occident, à nous de contrer les gouvernements qui nous la mettent. Et ça, qu'on l'admette ou non, parce qu'on veut pas admettre, ils génèrent que misère et tourment. Parce que 3/4 des peuples n'attendent que le grand tournant. Jeunesse de l'Occident, à nous de contrer les gouvernements. Je peux pas me plaindre, c'est pour ça aussi que je peux pas me taire. Quand je pense au mode de vie de mon peuple à l'autre bout de la terre, mes amis qui m'ont dit toi t'as de la chance d'être né en France, tu peux te construire un avenir et venir nous voir en vacances, alors lâche pas. Parce que tu peux encore rêver, je le jure au moins pour eux que je foncerai droit jusqu'à l'arrivée, que j'oublierai pas que la parole est une arme, que c'est rare d'être entendu. Donc je viens pas pour glorifier les drames de la rue, mais sans espoir, car faut y croire, car tout est possible quand on le veut. Ceux qui veulent tous nous voir au placard, parce qu'ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses. Si Dieu veut, un jour vaincra la rabia del pueblo.
Je vais de l'Occident, on est les seuls à pouvoir bousculer les choses. Je vais de l'Occident, on a plus le droit de fermer les yeux.
Bon, et donc voilà, bah, c'était Kenny Arcana.
Et c'était le cul de l'église.
Moi sinon rapidement je venais parler aussi gilets jaunes, donc après le grand débat quand même qui a eu un grand foutage de gueule qui est fini et qui a rien donné bien sûr comme on s'y attendait, il serait temps de passer à la grande débâcle de leur côté. Donc je suis allé faire vite fait un tour sur le net. Alors à Toulouse ce week-end, samedi, il y a un rassemblement à 10h de prévu à Jean Jaurès pour l'accueil des gilets jaunes venus d'ailleurs, des spectacles et des prises de parole, et un rendez-vous pour la la manif à midi au métro Jean Jaurès aussi. À Lyon, apparemment, il y a les manifestations qui ont été interdites par la préfecture. Voilà, mais il y a quand même des appels à manifester, mais pas de lieu précisé forcément. Et à Paris, alors il y a un rendez-vous à 11h avec un départ à 13h30 à Nation. Il y a un rendez-vous à 11h au métro Pereire avec un départ à midi. À République, il y a un rendez-vous à midi et il y a deux rendez-vous à 14h. Et il y a aussi un rendez-vous à 11h devant la basilique à Saint-Denis. Voilà. Alors tout ça, ça vient de groupes différents, plus ou moins bien. Voilà. Après, c'est à vous de gérer si vous voulez y aller et où vous voulez aller. Voilà. C'était un petit tour d'infos sur les gilets jaunes, juste pour rappeler que c'est toujours en cours. Et si vous voulez être motivé, vous pouvez y aller. Voilà, je vous ai donné des petites infos. Et on vous fait un petit bye-bye.
Salut.
Au revoir.
Salut.
Et à peut-être
de motivation
prochain.
Les copains.
Ah, il se fait et tard maintenant.
On se dit jeudi prochain ou quoi?
Mais ouais. Oui. Allez. Ouais, puis et le petit son que j'avais prévu pour les Soudanais là, vas-y.
Ah ouais, c'est ça. OK. Allez, big up. Hey, yeah.